Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceau, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Et Michel Lafont. Et cette semaine, il y a 9 nouveautés sur les écrans Manceau. F1, le film, Le Grand Déplacement, Once Upon a Time in Gaza, 13 jours, 13 nuits, Mégane 2.0, Amélie et la métaphysique des tubes, au rythme de Vera, Reflet dans un diamant mort et Ange. Et n'oubliez pas qu'à partir de dimanche, c'est la fête du cinéma.
Eh oui.
Ça veut dire que jusqu'à mercredi inclus, toutes les places sur tous les cinémas de France, donc ceux du Mans, eh bien, sont à 5 euros. Donc vous avez la possibilité de faire une orgie de films, sans compter que c'est climatisé dans les salles de cinéma. Et ça, c'est peut-être pas négligeable.
Et puis, il y aura une vente d'affiches aux cinéastes samedi et dimanche.
Exactement, comme chaque fois. Allez, pour ce qui est de la programmation musicale, eh bien, on va commencer par un titre qu'on entend à la toute fin du film Au rythme de Vera. C'est Nina Simone et ça s'appelle To Love Somebody. C'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Love Somebody, Nina Simone. Et oui, on connaît la version des Bee Gees.
Oui, bien sûr.
Pierre me le faisait remarquer, effectivement. Oui. Allez, F1, le film est proposé au Méga CGR, au Pathé Quinconce et au Colisée. Il y a de la VO, à vous de la retrouver. C'est sûr qu'il y a de la VO, puisque moi je l'ai vu en VO. F1, le film, c'est un film de Joseph Kosinski, réalisateur, producteur américain en 1974. On l'a découvert en 2010 avec Tron Héritage avec Jeff Bridges. 2013, un beau film de science-fiction Oblivion avec Tom Cruise et Olga Kurylenko. 2017, pour la uniquement en VOD, Line of Fire avec Josh Brolin et Jeff Bridges. 2022, pour Netflix, Spider-Head. Et puis 2022, le film qu'il a vraiment lancé aux yeux du grand public, c'est Top Gun Maverick avec, bien entendu, Tom Cruise. Et puis sinon, il a réalisé The Trials of White Boy Rick pour Netflix. Pierre vous parle de F1, le film.
Le titre original, c'est le même.
Oui.
F1, the movie. Durée 2h35,
et
avec donc Brad Pitt, mais aussi Damson Idris et Javier Bardem. Le synopsis. Sonny Hayes était le prodige de la F1 dans les années 90, jusqu'à son terrible accident. 30 ans plus tard, devenu un pilote indépendant, il est contacté par Ruben Cervantes, patron d'une écurie en faillite, qui le convainc de revenir pour sauver l'équipe et prouver qu'il est toujours le meilleur, aux côtés de Joshua Pierce, diamant brut prêt à redevenir le numéro 1. Sonny réalise vite qu'en F1, son coéquipier est aussi son plus grand rival, que le danger est partout et qu'il risque de tout perdre. La revue de presse, Le Parisien avec Renaud Baronian. Dans la grande tradition des films de sport automobile, F1 le film, mené à 300 à l'heure et tourné par Joseph Kosinski, lors de vrais week-ends de Grand Prix, électrise avec ses séquences de courses filmées à hauteur de casque de pilote qui mettent littéralement le spectateur au volant. Télé 7 jours avec Isabelle Magnier, un pur plaisir de cinéma. Les Échos avec Adrien Gombeau. Blockbuster né du mariage des studios et des sports mécaniques, F1 ouvre l'été hollywoodien avec un scénario sans surprise, des scènes de course virtuoses et un Brad Pitt qui cavale contre les années qui filent. 20 minutes avec Caroline Vier. Les scènes de Formule 1 sont efficaces, mais cela ne suffit pas pour compenser un scénario vieillot. La Tribune du Dimanche avec Marc-Aurèle Garraud. Seul le réalisateur de Top Gun Maverick pouvait rendre aussi lisible et vif le spectacle furieux d'un Grand Prix de Formule 1, époustouflant dans la mise en scène des courses, F1 profite de la technique d'orfèvre pour livrer une action. Ouest France avec Thierry Chaise. Brad Pitt incarne une ex-gloire de la Formule 1, de retour au volant pour sauver l'écurie d'un de ses meilleurs potes dans un film incroyablement spectaculaire, en dépit d'un scénario famélique. Et celui qui n'a pas aimé, ce sera le dernier, Jacques Maurice, pour Télérama. Un ancien prodige de la F1 revient dans la course, une caricature de success story cousue de fil blanc avec Brad Pitt en autopromo.
Voilà, F1, le film proposé au Colisée, au Méga CGR, au Pâté Quinconce, avec de la VO, de la VF, de la salle Ice. Et je ne sais pas comment ça va se passer dans la salle du Pâté Quinconce, la 4DX. Si on est secoué comme dans un baquet de Formule 1, ça doit être quelque chose. Hein. Enfin bref. Donc, Sonny Ace était un grand espoir de la Formule 1 dans les années 80, jusqu'à ce qu'un terrible accident mette fin à ses espoirs. Il est resté pilote, mais pour des courses quand même moins importantes, moins prestigieuses, jusqu'à ce que, 30 ans après, Ruben, jadis son adversaire et désormais team manager de l'écurie de Formule 1, alors imaginez, hein, Apex, une écurie en grande difficulté, vienne faire appel à lui pour devenir le coéquipier et mentor de Joshua Pierce, qui est un jeune pilote prometteur. Mais donc, cette écurie Apex est loin, très loin même d'être dans les meilleurs, elle est même au bord de la faillite. Et quand même, Sony finit par accepter. Donc, le film retrace la fin de la saison de Formule 1, donc la deuxième moitié, où Sony et Joshua connaîtront tour à tour une relation mentor-rookie, puis une relation de rivaux, puis complices et amis au gré de l'évolution de la saison et des résultats. Alors, le film, c'est un concentré de toutes les situations et types de personnages jusqu'aux rôles les plus secondaires des films consacrés au sport. Donc, zéro originalité de ce côté-là et même un vrai agacement devant le manque total d'imagination des scénaristes. Ça en est même carrément caricatural, y compris l'histoire d'amour entre Sonny et l'ingénieur de l'écurie. Voilà, donc il y a bien une histoire d'amour. Et puis, alors certes, je ne suis plus du verbe suivre la Formule 1 depuis longtemps, et donc j'ignore les subtilités du règlement qui en régit les Grands Prix, mais ici on a quand même une succession d'invraisemblances incroyables pour créer du suspense et de la tension, des rebondissements. Alors, j'ai peine à croire que toutes les irrégularités ou finesses tactiques commises par Sonny Ace soient possibles quand on sait comment la hiérarchie est très difficile à bousculer en Formule 1, a fortiori en cours de saison, et par une écurie qui est très 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 à la traîne au début de la saison. Alors, depuis, j'ai lu un article sur le site Sport24, c'est pas une critique du film par un critique de cinéma, mais par un critique de sport automobile qui est 100% d'accord avec moi en disant que un gars comme Sonny Ace, il serait viré dès la première incartade pour avoir commis ce genre d'erreurs, de faux accidents, tout comme ça. Enfin bref, bon. Alors oui, Brad Pitt a beaucoup de charme, les courses sont filmées en immersion totale, le montage est hyper dynamique, le spectacle est sur l'écran, avec en plus la caution du petit monde de la Formule 1, pilote et pilote et constructeur, vrai circuit, et même Lewis Hamilton comme coproducteur. Donc ça c'est sûr, il y a la caution de la Formule 1, mais le film est très long, reprend des recettes éculées, aligne les poncifs, les situations déjà vues et revues, et moi on peut dire m'a pas vraiment convaincu, comme l'avait fait à l'inverse Top Gun Maverick, auquel on pense forcément. C'est la même équipe de producteurs, même réalisateur, même schéma scénaristique, même star charismatique, mais là, ça a beaucoup moins fonctionné pour moi. Alors, en fait, on a beaucoup plus l'impression d'être dans une adaptation de BD style Michel Vaillant que dans la réalité vraie d'une saison de Formule 1. Et ce n'est d'ailleurs pas un défaut, hein, si on aime la bande dessinée, d'aller voir le genre de film. Mais pour moi, par exemple, ce film est très, très, très inférieur à Rush, qui racontait la rivalité entre Ferrari, je ne sais plus quel autre, et entre McLaren et Ferrari, et donc entre Niki Lauda et je ne sais plus, James Hunt. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur F1 le film. On change radicalement, oui.
C'est difficile de croire qu'un homme de plus de 50 ans.
Oui, là aussi c'est totalement invraisemblable, totalement invraisemblable. Surtout comme ça, au débeauté. Hein, oui, voilà. Oui. Oui. Le grand déplacement, on change radicalement de registre. Cette fois-ci, on est au Méga CGR et au Pâté Quincon. C'est un film de Jean-Pascal Zadi, acteur, réalisateur, scénariste, né en 80. Il a commencé par des courts-métrages. On l'a découvert avec un long-métrage qui s'appelait Tout simplement Noir, qui était assez réussi d'ailleurs avec lui-même, Fary, qu'on retrouve aussi dans ce film. Ça avait été co-réalisé avec John Wax. Et puis il a été acteur récemment dans L'Amour Ouf, mais oui, il était dans L'Amour Ouf, dans Prosper, dans La peau de Blanche Houellebecq, etc., etc. Pierre, parle-nous davantage de ce grand déplacement.
Durée 1h23, avec le réalisateur Jean-Pascal Zadi et aussi Reda Kateb et Loose and the Yakuza.
Oui.
Le synopsis. Dans le plus grand des secrets, se prépare à décoller la première mission spatiale africaine. L'équipage, issu du continent et de sa diaspora, doit explorer la planète Nardal afin d'évaluer la possibilité d'y ramener tous les Africains si jamais la Terre devenait inhabitable. Le problème, c'est que le voyage sera long, très long, et que la plus grande inconnue des missions interstellaires demeure l'entente entre les astronautes. La revue de presse, Les Échos avec Olivier De Bruyne, un film foutraque et très inégal. Il n'y a pas beaucoup de bonnes critiques. Il y a 20 minutes avec Caroline Vier, une fantaisie un peu foutraque qui a le mérite d'apporter un peu d'ambition à un genre qui en manque trop souvent. Et sinon, c'est des gens qui n'ont pas aimé. Étienne Sorin, dans Le Figaro. Le voyage intergalactique est long et répétitif. Le grand déplacement fait du surplace, même quand le vaisseau fonce à la vitesse de la lumière. Paris Match avec Fabrice Leclerc. Narration hachée, gag inexistant, personnages cousus de fil blanc, acteurs paumés qui ne savent pas bien ce qu'ils ont à jouer et morale politique un peu pataude. Rien dans ce film ne décolle jamais par paresse ou manque d'expérience, comme si Zadi avait été dépassé par l'ampleur du projet. La Croix, crédible grâce à ses décors soignés, le film, au titre en pied de nez au fourfendeur du grand remplacement, s'appuie sur un humour souvent absurde, prenant pour cible des personnages aux propos sexistes, racistes, homophobes, quitte à leur laisser beaucoup de place. La critique sociétale, parsemée de références discrètes à des penseurs noirs, mériterait d'aller plus loin. L'Obs, avec Guillaume Loison, a erré sans cap, le grand déplacement va jusqu'à perdre en route son esprit de dérision, au point de s'emplafonner vers la fin dans un grand n'importe quoi géopolitique, contraint de jongler entre niaiserie totale et subversion lilliputienne. Et enfin, le journal du dimanche, et ça continue dans le bad, un nanar intersidéral frisant le foutage de gueule.
Voilà, donc tout simplement, le film s'appelle Le Grand Déplacement. Je vous dis que le premier film de Jean-Pascal Zadi, c'était Tout simplement Noir, le premier film distribué sur les grands écrans, parce qu'il avait réalisé auparavant trois films qui avaient été uniquement distribués en vidéo, cramés, American Gangster, sans pudeur ni morale. Alors moi, je l'ai vu, Le Grand Déplacement, hein, donc le synopsis vous le dit, hein, de quoi il en retourne. L'humanité étant menacée à plus ou moins brève échéance de disparaître, l'Afrique a décidé de mobiliser dans le plus grand secret tout ce qu'elle compte de savants et de spécialistes afin de préparer une mission spatiale exclusivement par des Africains, émission spatiale et d'exploration d'ailleurs, afin d'étudier la planète Nardal, pour y déménager la population africaine et uniquement la population africaine. Donc, vous voyez, c'est très, très, très centré là-dessus. Alors, Jean-Pascal Zadi, eh ben, on est certes dans la science-fiction, mais c'est surtout dans la comédie qu'il est. Pas un maître, faut pas exagérer, mais c'est son domaine. Et cette comédie, ben, elle est quand même assez réjouissante. Moi, je suis un peu moins sévère que certains critiques. Moi, j'ai trouvé des moments vraiment drôles parce que son film fait preuve d'une très, très grosse dose d'autodérision, notamment en s'attaquant avec humour à tous les préjugés sur l'Afrique, qu'ils viennent des Occidentaux ou des Africains eux-mêmes, tous les préjugés, tous les poncifs. Ça nous vaut un paquet de scènes amusantes avec des personnages incarnés par les acteurs au top. Hein. Il y a Jean-Pascal Zadi, mais il y a aussi Reda Kateb. Alors le premier Jean-Pascal Zadi lui-même, il campe un personnage misogyne, homophobe, vantard, pétochard. Alors là, ça ne plaît pas à la critique qui prend ça au premier degré, bien sûr, mais c'est du second degré, bien sûr. Il est accompagné par Reda Kateb. Alors Reda Kateb, c'est un savant omnibilé par sa religion, par la religion musulmane et les préceptes de la religion musulmane. Et puis il y a Farid qui joue un troisième personnage qui lui n'assume pas du tout d'être un métis. Et il donne des leçons de négritude à tout le monde. Voilà, donc c'est un film qui dézingue, sévère, et tout le monde y passe, hein, les féministes, les décoloniaux, les machos, etc. Et ça, ça n'a pas forcément plu, donc je comprends bien la critique qui prend ça au premier degré. Mais le problème de ce film, c'est qu'il y a de très grosses, grosses baisses de régime, notamment quand il y a trop la volonté de faire un vrai film de science-fiction. Et puis l'épilogue pré-générique, c'est un épilogue complètement lénifiant, cucu, rattrapé quand même un petit peu par la séquence inclue dans le générique final, mais comme pas non plus qui est un rebondissement, un twist, mais bon, pas nécessaire. Bref, c'est plutôt une bonne comédie dans sa première partie, avant ce qu'on appellera le décollage de la fusée, avec un sujet original, plus de fond qu'il n'y paraît au premier abord, mais c'est quand même plombé par son rythme, donc bon, pour 5 euros en fait du cinéma, pourquoi pas, mais pas plus, hein, voilà. Donc ça s'appelle Le Grand Déplacement. Ange maintenant. Eh ben, Ange, c'est proposé par les cinéastes. Non, pas Ange, on passe à Once Upon a Time in Gaza. Once Upon a Time in Gaza, c'est un film qui est proposé par les cinéastes. Oui, bien sûr, ça c'est toujours proposé par les cinéastes. Mmh. Une séance par jour réalisée par deux frères, Tarzan et Arab Nasser. Ils avaient réalisé en 2015 Dégradé avec Yam Abbas. Et en 2020, Gaza Mon Amour, toujours avec Yam Abbas. Ils sont tous les deux palestiniens. Et leur film dure 1h27. Il était une fois à Gaza en 2007. Yahya, étudiant rêveur, qui se lie d'amitié avec Osama, dealer charismatique au grand cœur. Ensemble, ils montent un trafic de drogue, cachés dans leur modeste échoppe de falafel, mais ils croisent le chemin d'un flic corrompu venu contrarier leur plan. Alors, Michael Mélinard dans L'Humanité présentait un certain regard à Cannes, le troisième long métrage de Tarzan et Arab Nasser, mettant en lumière avec force rupture de ton le quotidien des Gazaouis. Adrien Gombeau pour Les Échos, un récit drôle et poignant d'une amitié sous locus. Renaud Baronian dans Le Parisien, formidablement réalisé par les frères cinéastes palestiniens en exil, Tarzan et Arab Nasser, récompensé du prix de la mise en scène au mois dernier dans la section Un certain regard du Festival de Cannes. Le film s'avère remarquable dans cette volonté des cinéastes de montrer une Gaza de 2007 qui vit et bouillonne, chacun vacant à ses occupations ou allant se détendre à la plage. La rédaction de La Croix, prix de la mise en scène donc, au dernier festival de Cannes dans la section Un certain regard. Once Upon a Time in Gaza est doté d'un scénario malicieux et d'un humour absurde qui servent surtout la deuxième partie du film après une introduction un peu longue. Le point, l'intrigue est très construite, mais la plus grande qualité de leur film est son côté documentaire qui nous transporte dans un lieu rarement montré à l'écran. Baptiste Thionge dans Le Dimanche. En résulte un récit dense, touchant et parfois drôle, entre absurde et burlesque, mais aussi déroutant, avec ses changements de ton et choix narratifs, donnant un peu l'impression que cohabitent deux films en un. Marius Chapuis dans Libération, le polar noir un peu raté, mais même bancal, Once Upon a Time in Gaza déborde de l'envie de mettre en fiction le quotidien gazaoui. Nicolas Scheller pour L'Obs, malheureusement, le laisser-aller domine, sans même chercher à égaler leur modèle, Sergio Leone et Quentin Tarantino. Ben oui, c'était Once Upon a Time, c'est eux, hein, ces titres.
In Hollywood.
Voilà, les frères Nasser se contentent de peu, tant dans l'écriture approximative que dans la mise en scène. Et enfin, Hélène Marzolf pour Télérama, une comédie noire inaboutie, malgré des séquences fortes et une belle maîtrise formelle. Et Pierre, maintenant, à toi.
Oui, alors je vais faire attention à ce que je dis. Mais je vais faire un petit peu d'histoire, comme ça, donc je ne vais pas prendre parti. Donc, en français, ça veut dire « Il était une fois à Gaza ». Nous sommes en 2007. Deux compères s'adonnent au trafic de médicaments qu'ils achètent en pharmacie avec de fausses ordonnances. L'un d'eux est finalement tué par un policier Et alors là, on change de période. Nous sommes maintenant en 2010. Le survivant est embauché comme héros d'un film sur l'oppression sioniste. Il y a donc là un film dans un film. Dans ce long métrage, il y a bien sûr des allusions à Israël, à commencer par 1948, ils en parlent dans le film. Mmh. 1948, rappelons-le, c'est le déplacement de 2 millions de personnes du nord vers le sud, appelé la Nakba, en français la catastrophe. C'était initié, professeur d'histoire, tu vas me dire si c'est vrai, initié par le Royaume-Uni et l'ONU.
Mmh.
Oui, c'est ça.
Ben, la Nakba, c'est un peu par la force des choses.
Oui, oui, c'est ça. Hein. Mais en fait, les allusions au conflit sont sporadiques, bien qu'étant toujours quand même en toile de fond. Ce film est donc dans l'ensemble assez glauque, incluant le dénouement que bien sûr je ne vous dévoilerai pas. La photographie accentue ce côté glauque, l'image est très sombre, comme le film. C'est un film lourd, mais court, donc je le conseille quand même de le voir, et puis les critiques l'ont dit, ce film a remporté le prix de la mise en scène dans la section « Un certain regard ». À Cannes, c'était en mai dernier.
Voilà, il est proposé au cinéma Les Cinéastes avec une séance par jour et en version originale comme il se doit. Le film Le Grand Déplacement fait la part belle à des chansons, mais notamment à celle-ci, Bob Marley, Africa Unit, sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
We're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man. Yeah, to see the unification of all Africans. Yeah, as it's been said already. Children of the Rasta man. We are the children of the Maya man. Africa, unite, 'cause the children wanna come home. Yeah, yeah. Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're grooving to our
Africa Unit, c'est Bob Marley, on entend ça dans le film Le Grand Déplacement. 13 jours, 13 nuits, alors le film ne sort qu'aujourd'hui, hein, c'est comme ça. C'est un film de Martin Bourboulon, vous le connaissez forcément, parce que vous avez vu en 2015 Papa ou Maman avec Laurent Lafitte et Marina Foy. C'est comme le film a eu du succès, en 2016 il y a eu Papa ou Maman 2 avec les mêmes. En 2020 il a fait Eiffel, sur la Tour Eiffel, avec Romain Duris et Emma Maquet, et puis c'est lui qui a réalisé Les Trois Mousquetaires. Première partie D'Artagnan, deuxième partie Milady, c'est quelqu'un de connu. Alors, le film dure de 1h52, c'est un film avec Roche Dizem. On est à Kaboul le 15 août 2021, alors que les troupes américaines s'apprêtent à quitter le territoire. Les talibans prennent d'assaut la capitale et s'emparent du pouvoir. Au milieu du chaos, des milliers d'Afghans tentent de se réfugier dans le dernier lieu encore protégé, l'ambassade de France. Seul le commandant Mohamed Bida et ses hommes en assurent la sécurité. Pris au piège, il décide de négocier avec les talibans pour organiser un convoi de la dernière chance avec l'aide d'Eva, une jeune humanitaire franco-afghane. Commence alors une course contre la montre pour évacuer les réfugiés jusqu'à l'aéroport et fuir l'enfer de Kaboul avant qu'il ne soit trop tard. Alors là, il y a des critiques qui sont très partagées et certaines, la dernière, elle était épouvantable. Donc, Le Parisien, un beau film sur la décision, la responsabilité, l'empathie même, à travers des scènes haletantes où tout peut dégoupiller à tout instant. Le Point, comment transformer un drame historique en leçon universelle tout en respectant la grammaire du cinéma où l'action est un moteur indispensable. En s'attachant à l'humain, Martin Bourboulon réussit à marier la puissance des images à la profondeur des émotions des personnages. Le Figaro, Éric Nohoff, pour cette histoire tirée de faits réels, Martin Bourboulon a eu beaucoup de moyens et Roche Dizem est convaincant en commandant, gérant l'afflux d'Afghans à l'ambassade de France de Kaboul. Manque de la tension et du suspense. Je suis pas d'accord du tout. Le Journal du Dimanche, Baptiste Thion, tendu et oppressant, son thriller porté par Roche Dizem, épatant, tient en haleine, sans altérer par ses effets de film à grand spectacle, la tragédie du vrai. Le Monde, vous imaginez sans doute le film qu'on peut en tirer. Eh bien, Martin Bourboulon l'a fait sur l'action et le suspense. L'histoire sèche d'une exfiltration en milieu hostile. Pour l'histoire longue de l'occupation du pays par l'Alliance Atlantique, pour le contexte politique afghan, pour l'évacuation américaine, pour la profondeur des personnages, on repassera. Et puis, donc, première, 13 jours pour dénouer un suspense que l'actualité a déjà dénoué. L'exercice consistant à transformer en tension ce que les téléspectateurs ou les spectateurs ont vécu en direct était périlleux. Mais c'est précisément dans cet écart entre vécu collectif et expérience singulière que réside l'enjeu du film et Bourboulon signe une œuvre qui capte avec justesse et vibration les soubresauts du monde contemporain. L'Obs, un film de guerre efficace à défaut d'être délicat. Les Échos, un film d'action qui ne parvient pas à égaler la récente série de France 2 sur le même événement. Les Inoccupables, Théo Ribeton, le film fait à la fois le témoignage régulier de sa maîtrise du suspense et néanmoins l'effet d'un tout-venant en pilotage automatique, dans le genre de la reconstitution guerrière contemporaine est actuellement en vogue, ce qui n'inspire pas particulièrement à Bourboulon des velléités d'originalité ou de singularisation. Libération, le film adapté du récit du commandant Mohamed Bida, pendant la prise de Kaboul en 2021, échoue à faire exister ses protagonistes. Et le dernier, je vous l'avais annoncé, séquelle du cinéma, dans des séquences tirant vers le film Catastrophe ou le péplum biblique, le spectacle de cette masse humaine filmée en surplomb depuis les murs de l'ambassade puis de l'aéroport, sert un embarrassant suspense d'envahissement. Là, c'est quand même très, très, très sévère. Moi, j'ai vu le film en avant-première et moi, j'ai beaucoup aimé, moi. C'est inspiré donc de faits réels, selon... la formule consacrée, c'est le récit donc de l'évacuation de l'ambassade de France en Afghanistan au moment de la prise de Kaboul par les talibans en août 2021. C'est un film remarquablement mis en scène, moi je trouve, digne des meilleures productions américaines du genre, par exemple, La Chute du Faucon Noir, des choses comme ça, par exemple, où Martin Bourboulon nous fait particulièrement bien ressentir la tension régnant ces jours-là à travers quelques personnages, notamment Mohamed Bida. C'est son livre qui a servi de base au scénario. Alors Mohamed Bida, c'est un gendarme, il est commandant chargé d'organiser cette évacuation de 400 personnes. Alors des 400 personnes, il y a le personnel d'ambassade, mais surtout des réfugiés cherchant à échapper au sort qui les attend à coup sûr, c'est-à-dire être zigouillés, quoi, hein, il n'y a pas de problème, ils le savent. Et donc il va organiser cette évacuation avec l'aide d'une douzaine d'hommes restés à ses côtés dans l'ambassade de France et Eva, une jeune femme franco-afghane travaillant pour une ONG qui lui servira donc d'interprète auprès des talibans pour négocier leur départ. Donc le film montre le chaos indescriptible qui règne dans la ville, qui règne à l'aéroport, la panique généralisée avec des mouvements de foule terrorisés face à des talibans fanatisés, quasiment incontrôlables. On se plaint souvent, moi en premier, que le cinéma français soit frileux à traiter de l'histoire contemporaine. Et bien là, il le fait avec vraiment une ambition, une vraie, véritable ambition. Alors, j'ai quand même un petit bémol sur la dernière demi-heure où le film, pour de bonnes raisons d'ailleurs, appuie peut-être un peu trop sur la personnification et la caractérisation de certains personnages comme la journaliste reporter ou la mère d'Eva. Mais le film, c'est aussi un spectacle. Alors évidemment, certains contestent le fait qu'on fasse du spectacle avec ce genre d'événement. Et pour cela, ben, il doit susciter l'émotion du spectateur pour qui le spectateur s'identifie forcément au personnage. Pour moi, c'est secondaire par rapport à l'intensité permanente qui règne sur ce film. Un film puissant, la reconstitution de la réalité atteint un réalisme vraiment exceptionnel. Les décors, les figurants, les mouvements de foule, la reconstitution de la ville, l'aéroport, tout ça, ça a été fait au Maroc. C'est d'une totale crédibilité, à l'inverse de F1, qui n'était pas du tout crédible. Alors, la reconstitution des courses était crédible, mais évidemment, l'histoire n'était pas crédible. Moi, j'ai beaucoup aimé 13 jours, 13 nuits, et je vous recommande chaudement d'aller voir le film. Par contre, je n'ai pas vu Mégane 2.0, et donc Pierre va vous parler de ce film en me précisant qui est le réalisateur, parce que je ne me rappelle plus, c'est Gerard Johnston, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Voilà, et il avait réalisé en 2014 Housebound, directement en VOD, et 2022, le premier Mégane, avec déjà Alison Williams. Il est néo-zélandais, Gerard Johnston.
Durée 2 heures, épouvante, horreur, thriller, avec Amy Donald, Jenna Davis et Alison Williams. Alors le synopsis, il est long, hein, je vous préviens.
Oui, le fait pas en entier.
D'accord, on va abréger.
Oui, oui.
2 ans ont passé depuis la destruction de Mégane, oui. Le prototype à la pointe de l'intelligence artificielle devenue incontrôlable lors d'un carnage aussi sanglant qu'impeccablement chorégraphié. Sa créatrice Gemma, aujourd'hui auteure de renom, milite pour l'encadrement drastique des IA par le gouvernement, alors que Cady, sa nièce de 14 ans, entre dans l'adolescence et se rebelle contre les règles trop strictes de sa tante. Je m'arrête là.
Voilà, oui.
Alors, la revue de presse sera rapide, il n'y a pas beaucoup. Écran large avec Judith Beauvallet. Mégane 2.0 abandonne définitivement toute velléité horrifique pour se concentrer sur l'action et la comédie. En surface, on s'amuse beaucoup devant ce grand n'importe quoi de divertissement décomplexé, mais l'hypocrisie totale du film vis-à-vis de son sujet central laisse un goût trop amer en bouche pour pouvoir pleinement l'apprécier. Le journal du dimanche, un divertissement très efficace grâce à la performance d'Amy Donald qui utilise son talent de danseuse et de contorsionniste pour incarner une Mégane plus vraie que nature. Première, avec Frédéric Foubert. Des blagues aux scènes d'action, tout ce qui suit est très convenu. Un peu du charme espiègle et de l'esprit du premier film subsiste néanmoins dans les dialogues de Mégane qui continue de balancer des punchlines persifleuses de son irrésistible voix de cyberpoupée détraquée. Et enfin Télérama, avec Augustin Pietron Locatelli. Ce Mégane 2.0 ne se prend jamais au sérieux et son humour bête et méchant fait mouche une fois sur deux. Mais 2 heures, ça reste tout de même long pour un demi-kilo octet de scénario.
Ouais, donc Mégane 2.0, ben, c'est proposé au Pathé Quinconce, c'est proposé au Méga CGR. Je ne sais pas s'il y a de la VO, c'est pas impossible, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, s'il y a de la VO, c'est forcément au Pathé. Je ne pense pas que le Méga s'amuse à faire de la VO sur ce genre de film. Voilà, pas vu, très envie, parce que ça faisait 2 heures, et bon, moi j'avais un mauvais souvenir du premier, mais pas nécessairement envie d'aller voir Mégane 2.0. Amélie et la métaphysique des tubes, cette fois-ci c'est un film qui est proposé au cinéaste, c'est un premier long métrage co-réalisé par Liane Cho Han et Maïlys Valade, réalisatrice, scénariste, toutes les deux, je pense que Liane Cho c'est une femme. Probablement.
Ah oui.
Maïlys, c'est une femme, ça, il n'y a pas de doute.
Oui.
Voilà. Et le film, donc, eh bien, a droit à 2 séances par jour au cinéaste. À toi, Pierre.
Durée 1h17, avec les voix de Loïse Charpentier, Victoria Grosbois et Isaac Chomsky. Le synopsis, Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son ami Nishio-san, le monde n'est qu'aventure et découverte. Mais le jour de ses 3 ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là, pour Amélie, tout se joue, le bonheur comme la tragédie. La critique est plutôt bonne,
ah oui.
Commence par 20 minutes avec Caroline Vier, un régal pour les spectateurs de tous les âges. Les Échos avec Léa Colombo, un bijou limpide et merveilleux. Télérama avec Guillemette Odissino. Le célèbre roman d'Amélie Nothomb se transforme en pépite pop, drôle, poétique, pour une délicate fusion entre animation française et japonaise. Elle, avec Catherine Robin, inspirée à l'évidence par les films du studio Ghibli, une gourmandise à mettre devant tous les yeux. Le Figaro, avec Olivier Delcroix, prix du public au dernier festival d'Annecy, ce long métrage, aussi délicat que profond, adapte avec tact le roman d'Amélie Nothombe. Le Parisien, avec Renaud Baronian. Surtout, le film bénéficie d'une charte graphique très colorée, hyper créative, d'une beauté à couper le souffle, inspirée par les paysages, l'art et le design japonais. Le tout sous influence assumée d'Hayao Miyazaki et Isao Takahata, les créateurs du studio Ghibli. Au final, le film a de quoi emballer, tant il est sublime, les enfants comme les adultes. Première avec Thierry Chaise, un écrin parfait pour le récit de la construction de cette personnalité hors norme dans ce Japon des années 60, encore profondément marqué par les fantômes de Nagasaki et Hiroshima, comme le laisse superbement entrevoir le personnage de la propriétaire de la maison, méfiante envers les Occidentaux, un bijou. L'Humanité avec Éléonore Houé, présenté au Festival de Cannes en séance spéciale, puis à Annecy cette année, Amélie et la métaphysique des tubes est un chef-d'œuvre d'animation. Cette adaptation du célèbre ouvrage d'Amélie Nothombe brille par ses tons et ses tonalités virevoltants. La Tribune du Dimanche avec Aurélien Cabrol. Le résultat est saisissant, entre hommages revendiqués à l'esthétique du studio japonais Ghibli et à la figure tutélaire de Miyazaki et des décors naturalistes où dominent de sublimes teintes vertes déclinées presque à l'infini, comme un écho aux yeux verts pommes de l'héroïne. Le Point, drôle et touchant. Libération avec Didier Perron. Malgré des forces graphiques sidérantes, le premier film d'animation de Maëlys Valade et Lian Chohan, une adaptation du roman d'Amélie Nothombe, atténue la noirceur et l'humour de la romancière belge. Et je vais terminer par une critique négative. Mathilde Grasset dans les Cahiers du cinéma. La philosophie enfantine bute contre l'animation, à la fois la mise en situation et le graphisme, l'imaginaire en formation paraît recouvert par un dessin verrouillé, plein et presque figé, qui peine à suggérer le lent processus de constitution d'un monde à soi.
Ouais. Bon, alors moi je suis pas un grand fan de dessins animés, surtout si c'est pas des comédies genre L'Âge de glace ou Shrek, mais 1h15 ça devait être supportable, et ben finalement ça l'a été supportable. Alors je pense que les fans d'animation japonaise façon Studio Ghibli seront eux par contre tout à fait comblés, tout comme les admirateurs d'Amélie Nothomb, dont le film est l'adaptation d'un de ses romans. Alors ce roman, ben il raconte de son propre point de vue les trois premières années de la petite Amélie au Japon, où ses parents et frères et sœurs aînés sont expatriés en ce début des années 60, je crois qu'on est en 69, il me semble. À commencer par sa naissance, où elle s'imagine être Dieu. Alors, si vous allez voir le film, vous comprenez pourquoi, elle s'imagine ça. Puis pendant 2 ans, eh bien, elle restera mutique jusqu'à ce que sa grand-mère lui fasse déguster du chocolat blanc, ce qui aura l'effet d'une révélation, puisque dès lors, eh bien, elle se met à parler, et même à beaucoup parler. Mais c'est quand même sa rencontre avec une nounou japonaise qui va vraiment l'éveiller à la vie, cette nounou lui faisant découvrir les traditions japonaises auxquelles eh bien, elle sera particulièrement réceptive. Alors pour elle, eh bien, c'est l'heure de l'éveil des sens. Visuellement, le film est superbe. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Les représentations de la nature et des animaux en particulier sont absolument magnifiques. La petite fille étant particulièrement éveillée, eh bien, il est quand même aussi question de problèmes philosophiques qu'elle se pose. Le tout avec en arrière-plan aussi les conséquences du conflit mondial et de la défaite japonaise et ses conséquences sur la population, notamment les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Alors moi je suis pas forcément client de ce genre de film, je vous l'ai dit au début, mais je reconnais les qualités du film et je n'hésite pas à le recommander sans hésitation, et je pense que Pierre devrait aller voir ça, lui qui est fan de culture japonaise.
Bon,
voilà.
C'est noté.
Bien. Allez, dans le film F1, on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, et notamment on entend cette chanson. Alors, il y a plein de chanteurs dont je n'ai jamais entendu parler. C'est le cas de ce Don Toliver. Mmh. Et le titre, c'est Lose My Mind sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. To blame.
a new pen, rewriting a story. Hello to my old ways, goodbye to the nosebleeds. You fighting to stay here, you probably OD'ing. Ain't finna pop for no reason. I don't do shots, I run legions. I've been going over the top with no queen. Been died with no regrets, this is my season. It's the bow trigger, gift that keep giving. None to wrap up, I ripped a new ribbon. They wanted to catch up, wanted my good riddance. You saw me a rock bottom, you wanted a new winner. I paved the way for him. Take the pain, double it, put it in waveform. Safe to say, trouble ain't what you was made for. Keeping a ring on, I told them all game on. The minute I came on.
Lose My Mind, Don Toliver, dit qu'on entend dans le film F1, le film Au rythme de Vera. Au rythme de Vera, c'est proposé par le cinéma Les Cinéastes, avec deux séances par jour, et réalisateur Ido Fluck, oui. Réalisateur, scénariste, producteur, qui avait réalisé en 2015 The Ticket, qui semble inédit. Et là, donc, c'est le premier film d'Ido Fluck proposé sur les grands écrans français, en tous les cas. Pierre, à toi.
Durée 1h56, biopic, drame, mais aussi musical, avec Mala Ende, John McGarro et Michael Chernus. Le synopsis: en 1975, Vera Brandes, une jeune femme ambitieuse de 18 ans, va défier les conventions, s'opposer à ses parents et prendre tous les risques pour réaliser son rêve, organiser un concert de Keith Jarrett à l'Opéra de Cologne. Son audace et sa détermination vont donner naissance à un des enregistrements mythiques du XXe siècle, The Köln Concert. La revue de presse, positif, avec Hubert Niogré. Le montage du film, qui mélange des éléments de nature différente, suit la course permanente de Vera Brandes, parfois un peu trop bousculée, et donne au film son rythme. Première, avec Thomas Borez. De ce récit Behind the Scenes, Ido Fluck tire une fiction dynamique et réjouissante qui évite la sacralisation. Pour preuve, le fameux concert est avalé par une ellipse. C'est bien Vera, Mala Ende, qui impose le rythme de l'ensemble. L'Obs avec Xavier Le Herpeur. Les personnages négocient à merveille les ruptures de ton et digressent, rectifiant face caméra les versions officielles de l'histoire et jouant de l'écran comme d'un tableau noir pour y inscrire des bas de page qui enrichissent l'humour et la dérision avec lesquels ce destin nous est narré. Sans sacrifier la musique, autre protagoniste principal, mise en scène avec une énergique inventivité. Et enfin Télérama avec Johan Haddad. Si le propos est un peu candide, la soif de liberté de cette jeune femme s'avère touchante, de même que son aptitude à se confronter aux hommes ou son talent pour se dépêtrer de situations impossibles. Et, plus encore, ses mots pour motiver Keith Jarrett, artiste désenchanté, brillamment interprété par John McGarro.
Alors, s'il y a un critique qui parle d'ellipse, l'ellipse, elle est obligatoire dans la mesure où Ido Fluck n'a pas eu accès aux droits du concert, donc il ne peut pas passer des images du concert, il ne peut pas même la musique du concert, d'accord. Voilà, donc c'est l'histoire de Vera Brandes, une jeune Allemande à l'origine de l'organisation d'un concert, semble-t-il mythique, celui que donna le pianiste de jazz Keith Jarrett à Cologne en 1975, et dont l'enregistrement est, nous dit-on, le disque de jazz solo le plus vendu de l'histoire. Bon, alors le film est tout autant le portrait de Vera. Alors Vera, c'est une passionnée de jazz, pleine de culot, de dynamisme. Elle a 18 ans et elle devient, contre l'opposition absolue de son père, tourneuse, c'est comme ça qu'on dit, hein, pour des jazzmen, dans toute l'Allemagne. Elle et ses amis vont réussir si bien à devenir célèbres dans le milieu du jazz, eh bien, qu'elle se met en tête de produire un concert de Keith Jarrett, pianiste mythique. Le film racontant les préparatifs semés d'embûches de ce concert, tout en faisant un portrait d'ailleurs de ce fameux Keith Jarrett. Alors, il n'est pas nécessaire d'être fan de jazz pour apprécier le film, puisque tout est fait pour initier le néophyte, avec même au cœur du film une sorte de cours sur l'évolution du jazz fait de façon très habile et didactique. Moi, j'ai appris pas mal de choses par un personnage qui est un journaliste spécialisé qui a suivi et interviewé Keith Jarrett à ce moment-là. Donc, c'est un film sur la jeunesse avec une jeune actrice donc qui est excellente, rayonnante, pleine d'énergie. J'ai pas retenu son nom, Pierre va me rappeler.
Alors c'est Mannheim 2.
C'est ça, voilà, exactement. Pleine d'enthousiasme, incarnant une Vera qui s'émancipe du patriarcat, comme on ne disait pas encore à l'époque, en 75, qui vit sa vie de jeune femme libre, qui fonce, déterminée face à l'adversité. C'est un film aussi sur le jazz, sur les coulisses de ce concert, avec toutes les difficultés que durent affronter ses protagonistes. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film, alors que je partais pas convaincu au départ. Au rythme de Vera, c'est proposé par les cinéastes. Tout comme les deux films suivants, qu'on va évoquer assez rapidement. Reflet dans un diamant noir, 1h27, interlude moins de 12 ans. C'est réalisé par Hélène Katté et Bruno Forzani. Ces deux réalisateurs ont alors actif des films comme Amer, L'étrange couleur des larmes de ton corps ou Laisser bronzer les cadavres. Voilà des titres magnifiques. Alors le synopsis de Reflet dans un diamant mort. Eh bien, suite à la disparition soudaine de sa voisine de chambre, un ancien agent secret, reclus dans un palace de la Côte d'Azur, s'imagine que ses ennemis jurés refont surface, surtout la redoutable Serpentique, qu'il n'a jamais réussi à démasquer. Oscillant entre présent et passé, il remonte le film de sa vie, au risque de découvrir qu'il ne tenait pas forcément le meilleur rôle et que les diamants sont loin d'être éternels. Alors, la presse a grosso modo aimé, hein, c'est par exemple, on va citer quelques-uns, Clarisse Fab dans Le Monde, qui parle d'un bijou visuel qui déconstruit le film d'agent secret. C'est très à la mode de déconstruire aujourd'hui. Yannick Velu, le Paris Match, le film le plus dément de l'année, carrément. Thibaut Lucia dans Les Inoccupables, des décors luxueux aux gadgets sophistiqués, reflet dans un diamant mort, renoue de manière récréative avec des archétypes qui, une fois régénérés, outrepassent la dichotomie classique entre le bien et le mal. Mais tout le monde n'est pas sur cette ligne. Par exemple, Michel Valentin est plus circonspect dans Le Parisien, un concept très intéressant mais peu avantagé par un scénario bien trop cryptique, voire par moments incompréhensible. Dommage pour l'histoire, mais sinon, quelle beauté sur l'écran. Guillaume Loison dans L'Aube, c'est beau, inventif, vertigineux, bien qu'à s'enrouler sur lui-même, ce délire maniériste devient un tantinet suffocant. Johan Haddad dans Télérama, le montage frénétique, les acteurs en cabotinage constant et la violence extrême provoquant une fascination pour ce film pas comme les autres, qui pourra autant agacer que passionner. Le film n'a droit qu'à une séance par jour au cinéaste, il est interdit au moins de 12 ans. Et enfin, un dernier film à l'affiche cette semaine, toujours au cinéaste, c'est un film qui s'appelle Ange. Son réalisateur est Tony Gatliffe. Je ne vais pas faire la filmo de Tony Gatliffe. Sachez que c'est un spécialiste du cinéma sur le monde gitan, puisqu'il est lui-même originaire. Il a commencé en 83 un film qui s'appelait Les Princes, avec Gérard Darmon. Et puis ensuite, des films comme Rue du Départ, en 85. Ensuite, L'Achodrome, en 93. Mondo, en 95. Vengo, en 2000, Gaggio di Lo avec Romain Duris notamment en 97, Swing en 2002, Liberté en 2008, Enniñados, un documentaire, 2014, Geronimo avec Céline Salette, 2017, Jam avec Daphné Patakia et Simon Abkarian, et en 2021, le dernier en date, Tom Medina, c'était le titre de ce film. Alors, Ange, ça dure 1h37, c'est avec notamment Arthur H, le fils de
Jean.
Oui. Ange, voyageur solitaire et ethnologue de profession, doit pour rembourser sa dette mettre le cap sur les bords de la Méditerranée alors qu'il a pris les routes au volant de son vieux van. Telle n'est pas la surprise quand il découvre, caché dans le coffre, sa fille de 17 ans dont il vient à peine d'apprendre l'existence. Rapidement, 2-3 critiques. Le Figaro, un parfum de liberté brute et corsée, se dégage de ce film qui n'est pas désagréable. Le Journal du Dimanche, on se laisse prendre par le charme tout en décontraction d'Arthur H. et la mise en scène élégante et solaire. Thierry Chasse en première, ce road movie musical s'inscrit pleinement dans l'œuvre et l'univers de Tony Gatliffe, l'homme de Gaggio di Lo, mais sans y apporter une touche originale. Cet air de déjà-vu abîme le plaisir pris devant ces pérégrinations joyeuses teintées d'une émotion jamais feinte. Et puis Pauline Conradson dans Le Parisien, on sent que le réalisateur de Gaggio di Lo cherche la poésie, mais le film nous agace puisqu'il ne nous touche. Et enfin, Boris Basti dans Le Monde. Difficile de se passionner complètement pour la rencontre entre Ange et Soléa, la jeune femme qui l'accompagne dans la quête de son ami Marco, et dont il comprend très vite qu'elle est en réalité sa fille, tant la fiction leur laisse peu d'espace pour exister. Nous n'avons pas vu ce film.
Non.
Pierre, dis-nous juste un petit mot sur Black Box Diaries, parce qu'il n'est plus programmé de toute façon. Hein.
Si, alors justement, si, il reste une possibilité lundi à 13h30 au cinéaste. Donc je vais pas vous faire le commentaire, on n'a pas le temps. Enfin, j'ai quand même une bonne nouvelle, si vous pouvez pas y aller lundi, il existe un livre de la réalisatrice Chiori Ito intitulé La boîte noire, donc Black Box, qui est paru en livre de poche, donc à un budget tout à fait raisonnable.
Ouais, mais tu peux nous dire de quoi ça parle quand même.
Oui, alors c'est ça va être dur de pas lire aussi.
Mais oui, mais bon,
en quelques mots, Journaux intimes de la boîte noire, c'est la traduction de Black Box Diaries. Et ben elle fait référence à une pièce fermée, c'est l'histoire d'un viol. Elle a le courage de raconter au Japon. D'ailleurs, ça a été interdit au Japon, le film. Hein. Mm-hmm. Donc, ça fait mal. Parce qu'elle a été violée par un haut fonctionnaire proche du Premier ministre. Et donc, elle a des gros problèmes. Mais enfin, ça va bien aboutir, finalement. À la fin, le procès va être en sa faveur, quand même. Finalement.
D'accord. Black Box Diaries, c'est un documentaire. C'est un documentaire.
Ah oui, c'est un documentaire. Voilà. Mais c'est Chiori Ito et c'est elle-même qui a été violée. Hein.
D'accord.
Qui raconte son histoire.
Alors, la semaine prochaine, eh bien déjà, je rappelle qu'à partir de dimanche, lundi, mardi et mercredi, c'est la fête du cinéma, 5 euros la place pour tous les films à l'affiche, quel que soit le cinéma en France. La semaine prochaine, eh bien, il y a des avant-premières déjà, dimanche à 13h25, le dessin animé Falcon Express au Méga CGR. Mardi, il y a l'avant-première du film Rapace de Peter Doroun-6 avec Ami Boisgila. C'est à 19h15 au Pâté, à 20h Omega. Et puis, donc, mercredi, sortira Jurassic World Renaissance. Bon, ça, je pense que Pierre n'ira pas le voir.
Oh, non.
Matérialiste, un film avec Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans. L'accident de piano de Quentin Dupieux. Là, Pierre n'ira pas non plus parce qu'il n'est pas trop fan de l'humour de Dupieux.
C'est spécial. Oui.
Ouais. Falcon Express, donc, L'Aventura de Sophie Le Tourneur. Rapace, donc. Et puis Le bonheur est une bête sauvage du sartois Bertrand Guéry. Et puis le début de la trilogie d'Oslo avec un film qui s'appelle Rêve, trilogie parce qu'il y aura 3 films en 3 semaines.
Ah oui.
Alors cette semaine, Pierre, tu nous recommandes quelque chose ou pas?
Ben, essayez d'aller voir Black Box Diaries lundi à 13h30, je le rappelle. Sinon, bon, Once Upon a Time in Gaza, je suis mitigé là-dessus.
Ouais. Mm. Bon, ben moi je vous recommande absolument 13 jours, 13 nuits et Au rythme de Vera.
D'accord.
Ce qui n'est déjà pas si mal. Voilà. C'était Clap sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.